icône pour un acteur, c'est la personnalité. Ta présence.
Je vous répondrais non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule dans tes lèvres. Ok?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Cherche un garçon de 12 à 14 ans pour tenir un rôle dans un film de cinéma. À 50 ans d'intervalle, 1959-2009, deux jeunes cinéastes vont trouver leur perle très rare, un acteur. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Oui, 50 ans après que François Truffaut ait découvert son Antoine Doinel en Jean-Pierre Léo, lui trouve lui aussi son jeune double à l'écran, Hervé, Vincent Lacoste. Bonjour Riyad Satouf.
Bonjour.
Quand j'ai rencontré Vincent, dites-vous, j'ai tout de suite eu l'impression qu'il était dessiné par moi. Résultat, ce film, Les Beaux Gosses, les débuts et un tournage raconté dans cette BD, le jeune acteur 1, aventure de Vincent Lacoste au cinéma, chez les livres du futur. Truffaut, il le connaît très bien pour lui avoir consacré un livre, tout comme sur Romère et Godard, jusqu'à celui-là, sobrement intitulé Chabrol. Bonjour Antoine Debecq.
Bonjour.
Historien de la Nouvelle Vague, Claude Chabrol, 57 films, 23 téléfilms, une œuvre et un homme secret décrypté dans votre livre Somme, édité chez Stock. Enfin, les sorties de la semaine d'un héros du quotidien à une panthère des neiges, c'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Voici Monsieur Lacombe.
Bonjour.
Vous allez nous donner des réponses franches, directes et précise.
Où est la jeune femme?
Est-ce que vous rendez compte du danger que vous courez, vous et votre
amie? Vous ne lisez pas les journaux, vous ne regardez pas la télévision?
En venant ici, vous vous exposez au gaz toxique.
J'imagine que vous avez de bonnes raisons de courir ce genre de risque.
Mais je suis vivant.
Oui, je le vois bien, oui.
Je vous parle.
Et il ne se rend pas compte.
Vous avez beaucoup de chance.
C'est vrai, beaucoup de chance.
Et si les vents dominants avaient soufflé du sud?
Excusez-moi. Le fait que vous vous soyez muni de masques indique que vous étiez au courant.
Vous ne saviez pas que l'air était pollué?
Nous aimerions bien savoir quelles étaient vos intentions.
L'air n'est pas pollué.
Pas pollué.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Vous l'avez analysé?
J'en suis sûr. L'air n'est pas pollué.
Si vous ne me croyez pas, eh bien allez voir dehors.
Riyad Satouf, un soir chez vos grands-parents, vous découvrez à la télé ce film de Steven Spielberg, Rencontre du troisième type avec le scientifique français, incarné par François Truffaut. Vous le trouvez beau et viril. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là?
Bah écoutez, moi c'est vrai que comme dans ma famille on n'était pas très cultivé dans le sens où on n'était pas d'un niveau culturel très très élevé. Moi comme tous les jeunes de ma génération, j'adulais tout ce qui venait d'Amérique et j'adorais évidemment Steven Spielberg. J'aimais essentiellement la science-fiction et lorsque est apparu cet homme avec sa mèche, son accent vraiment français, etc. Mon grand-père m'a dit ah mais tu le vois celui-là, c'est un Français, il s'appelle François Truffaut, c'est un grand réalisateur. Alors ma grand-mère a dit oh moi j'aime pas ces films, je comprends rien mais je revenais pas qu'un Français déjà soit adoubé par Steven Spielberg.
Oui.
En plus le fait que ce soit un grand réalisateur, comme le disait mon grand-père, a titillé ma curiosité et c'est comme ça que je me suis intéressé à François Truffaut et que j'ai découvert les 400 coups.
Justement oui, vous regardez aussi à la télé les 400 coups, l'histoire d'Antoine Doinel, un étudiant des années 50 à Paris.
Ici souffrit le pauvre Antoine Doinel, puni injustement par Petite Feuille pour une pinotte tombée du ciel. Entre nous, ce sera dent pour dent, œil pour œil.
Allons, allons, qu'est-ce qu'il y a de si intéressant là-bas? À vos places. Bravo. Nous avons un nouveau juvénal dans la classe, mais il est encore incapable de distinguer un alexandrin d'un décasyllabe. Primo Doinel, vous allez me conjuguer pour demain. Allez à votre place, notez la phrase. À tous les temps de l'indicatif, du conditionnel et du subjonctif, les autres, prenez votre cahier de récitation. Je dégrade les murs de la classe et je malmène la prosodie française. Française.
Riyad Satouf, Truffaut, Léo, c'est un exemple unique au monde, cette idée de suivre un acteur à différents âges de la vie, ça vous a fasciné, ça, dans l'idée?
Oui, bien sûr. Et surtout, ce qui m'avait marqué quand j'étais plus jeune, c'était que les 400 coups se finissaient quand même de manière très dramatique.
Oui.
C'est-à-dire, Antoine Doinel finissait en prison, etc. Et quand j'avais vu les autres films qui suivent, il y avait quelque chose de très positif dans le sens où l'âge adulte était enfin arrivé pour Doinel, et c'était comme s'il s'en était sorti. Il y avait une vision très positive du futur. Voilà, je sais que quand je regardais Les 400 coups, j'avais des problèmes familiaux, etc. Il y avait quelque chose de très positif dans le parcours de ce personnage qui finissait par se sortir de tous ses ennuis.
Mais est-ce que c'est Truffaut qui vous a donné envie de faire des films après ?
Ah ben moi, ce que j'ai adoré avec Truffaut, la chose qui m'a le plus touché quand j'ai vu ses films, c'était que, comme beaucoup de gens qui n'avaient, enfin qui n'ont toujours, mais qui n'avaient vraiment aucune culture de cinéma, aucun accès à la culture, disons, considérée, j'étais extrêmement complexé. Et quand j'ai vu Les 400 coups, je savais que c'était un film qui était considéré comme un chef-d'œuvre, comme une œuvre majeure du cinéma mondial, etc. Et j'ai été extrêmement valorisé de me rendre compte que je l'avais très bien comprise. C'était très accessible et donc très agréable pour l'ego et très apaisant, oui, c'est ça. Et donc je me suis vraiment dit, mais on peut faire des films qui sont regardables par n'importe qui et que ce soit des grandes œuvres. Il y avait quelque chose de très modeste et puissant, voilà.
C'est une productrice de cinéma, Dominique Toussaint, qui vous lance sur la piste justement d'un film par rapport à l'enfance que vous avez si bien traité dans vos BD. Et donc ce fantasme du double arrive. Et quand vous préparez ce film, vous pensez encore à Truffaut et à Léo?
Je voulais trouver un jeune acteur, oui, qui soit éblouissant, complètement, qui mette tout le monde d'accord tout de suite dès qu'on le voit apparaître à l'écran, comme avait pu l'être Jean-Pierre Léo lors de son premier casting. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que lorsqu'on a fait ce casting sauvage, ça allait être beaucoup plus compliqué que, oui, que prévu, parce que voilà, moi je voulais un physique assez particulier, je voulais pas de petit enfant charmant et même quand j'y repensais, je me disais, si j'étais tombé sur Léo, est-ce que je l'aurais pas trouvé trop beau? Déjà à l'époque, il était mignon comme tout.
Ouais,
il
avait...
Tandis qu'à Lacoste, vous dites, il joue avec une bouche de têteur sur lequel j'étais passé très vite, il était pas mal, mais rien d'éblouissant non plus. Sauf que Lacoste, il dit pas un mot et il fait rire tout le monde, déjà sur le plateau, c'est ce qu'on voit dans la BD.
Ah oui, ça c'est la chose que j'ai remarqué, qui m'a mis tout de suite sur la piste, c'est qu'il avait une nature comique involontaire, qui était incroyable, et surtout il était très intelligent pour écouter ce qu'on lui demandait de faire, et il avait beaucoup d'autodérision déjà à l'époque, c'est-à-dire il était tout à fait conscient d'être un peu un grand échalas, un peu mou, avec une grosse voix, etc. Il était conscient de faire rire les gens sans le faire exprès, donc il avait déjà beaucoup d'intelligence de ce qu'il était pour l'utiliser, donc il m'a plu vraiment tout de suite, mais c'est vrai que c'était pas un acteur évident dès le départ.
Les Beaux Gosses 2009, l'histoire d'Hervé qui vit seul avec sa mère et ses potes du collège qui ne pensent qu'à une chose, sortir avec une fille, et cet extrait dans la salle de bain avec sa mère, incarné par Noémie Lvovsky.
Tu veux baisser ta musique d'arabe?
Putain, frappe, merde là.
Dans ta chambre je frappe, la salle de bain c'est pour nous deux. Tu sais quoi? Tu te masturbais? Tu pensais à quoi?
À toi. Non, c'est bon, l'intimité, la pudeur, tu connais là.
Oh là là. Je t'ai porté là, alors c'est pas à moi que tu vas faire le couplet sur l'intimité entre les gens, hein.
Mais tu me fais chier. Tu me fais chier. Tu me fais chier. J'en ai marre là, ok? Putain, tu m'emmerdes, ok? Putain. Moi, si ça continue, j'appelle Enfance Maltraitée.
Eh ben appelle-les. Appelle. Tu vas te retrouver dans un foyer, tu seras bien content.
Tu m'emmerdes. Oui, je serais bien content. Parce que toi, tous les jours, tu me casses les couilles avec ta branlette. Tu m'emmerdes. Putain, on peut plus être tranquille dans cette maison.
Non mais c'est dingue, Riyad Satoufi, il sait jouer ça, quoi, tout de suite.
C'est une chose difficile de jouer la colère.
Ouais.
Oui, aussi c'est
bien,
vrai.
Aussi bien que Michel Piccoli dans Vincent François Paul et les autres, c'est difficile quand même.
Ou pleurer, il sait pas pleurer au début.
Non, et oui, c'est vrai. Alors moi, je tenais vraiment à ce que toutes les émotions, entre guillemets, soient vraiment ressenties donc je voulais qu'il pleure des vraies larmes. Donc c'est vrai que ça a été assez long. Mais c'est vrai que dans ce livre, je voulais aussi quand même vraiment raconter comment, au-delà de l'exemple de Vincent, mais comment un adolescent anonyme, ça, vraiment, qui n'avait rien pour lui, rien pour lui d'apparence, a fini par devenir l'acteur qui reçoit le plus de scénarios et de propositions de sa génération, quoi. C'est pour moi, de mon point de vue, c'était assez étonnant à observer.
C'est fou, vous dites un truc fou, je ne voulais pas qu'il rate sa vie à cause de moi. C'est-à-dire que vous lui dites attention à la drogue, attention à l'alcool, continue tes études, comme si vous vous sentiez responsable de lui.
Oui, alors je me sentais très responsable de lui, déjà parce que je l'avais pris dans sa cantine où il était en train de manger tranquillement pour le mettre sur un plateau de cinéma. Donc je voulais absolument pas qu'il finisse comme voilà, comme beaucoup de jeunes acteurs qui sont dans les excès, enfin jeunes acteurs américains, on a tous des exemples comme ça, mais bon, c'est vrai que déjà d'un point de vue humain, je pouvais pas lui dire vas-y bois et drogue-toi alors que c'est un adolescent. Donc il est vrai que je le surveillais vraiment extrêmement. Je lui avais pris un prof pour qu'il passe son brevet des collèges. Et ensuite quand on avait terminé Les Beaux Gosses, il voulait absolument rejouer dans un film avec moi. Donc je l'avais menacé de ne pas le prendre dans mon film suivant s'il avait pas son bac. Voilà, je voulais absolument qu'il ait sa vie conventionnelle d'adolescent.
Est-ce que cet engagement, Antoine Debecq, c'est un peu comme Truffaut avec Jean-Pierre Léaud?
Absolument. Je crois qu'il y a cette idée d'une responsabilité. Oui. C'est vrai que, comme le disait Riyad Satouf, bien sûr, Léo ou Lacoste, ils ont choisi, ils ont envie, mais en même temps, il y a cette idée qu'ils ont été comme prélevés, ôtés à leur vie normale par le cinéma, par un cinéaste, et donc le cinéaste a cette responsabilité. Et c'est vrai que Truffaut, par rapport à Léo, va presque le à la fois le considérer comme son jeune frère, hein, oui, quelque chose comme ça, et puis d'autre part l'élever, l'éduquer. Léo était un enfant très difficile, très turbulent, voilà, qui passait de pension en pension, qui fuguait, voilà. Et donc c'est vrai que Truffaut va par exemple loger Jean-Pierre Léo au-dessus de son bureau pendant des années et des années. C'était quelque chose, d'ailleurs, je pense que peut-être qu'il y a eu des moments exactement comme on a entendu avec Lacoste et, et sa mère, voilà, de colère de Jean-Pierre Léo vis-à-vis de Truffaut, hein. Ça, c'est sûrement quelque chose qui est arrivé. Donc il y avait cette responsabilité là.
Ce que raconte très bien la BD, c'est le retour dans la vie normale. Riyad Satouf, il retrouve sa chambre, sa mère, enfin ses parents et ses potes. Et ça, c'est un gros choc thermique quand même, hein.
Non, mais bien sûr, il y a vraiment le. Je crois que c'est là aussi qu'il a pris conscience de à quel point il avait aimé ça et à quel point il s'était retrouvé en résonance avec le fait d'être acteur. Par exemple, parmi d'autres jeunes qui avaient fait partie du casting des Beaux Gosses, il y en a beaucoup qui n'ont pas continué, en fait, même s'ils étaient très très bons. Enfin, moi, je les trouvais très très bons. Ils ont pas forcément ressenti la flamme ou je sais pas. Et lui, c'est vrai que il s'est rendu compte que c'était ce qu'il aimait, qu'il était. Donc il s'est retrouvé abandonné quand le tournage s'est terminé. Il était très déprimé.
Dans le livre, Riyad Satouf, vous créditez justement au scénario, hein, mais vous ajoutez d'après les histoires vraies de Vincent Lacoste. Et pas d'après une histoire vraie, celle de Vincent Lacoste. Donc c'est les histoires vraies. C'est-à-dire qu'au fond, on a quand même l'impression que c'est déjà à l'origine un personnage avec deux fictions, au sens quand même où des histoires, c'est pas une seule histoire, quoi.
Bah, disons que c'est vrai que moi qui suis resté très proche de lui au fur et à mesure des années, il a grandi, il m'a rejoint dans l'âge adulte, mais il me raconte sa vie, en fait. Il me raconte toutes les histoires qui lui arrivent, ces histoires de tournage. Moi, je vois bien comment il vit, entre guillemets, sa célébrité naissante. Pour des gens, il est très connu, mais pour d'autres, il ne l'est pas du tout. Mais comment ça agit sur le moral, voilà. Donc c'est pour ça que c'est vrai que dans ce livre, j'ai mis tous les souvenirs que j'avais avec lui. Donc voilà, ça vient des choses qu'il m'a racontées.
J'ai une grosse question, Riyad Satouf. Est-ce que vous pensez qu'il serait devenu acteur sans vous ?
Oh là là, ça c'est très compliqué à dire, parce que est-ce que si j'avais eu le corps d'Arnold Schwarzenegger, je serais devenu auteur de BD ? C'est toujours très compliqué.
C'est abyssal.
Non, mais voyez ce que je veux dire. Est-ce que vous pensez que dans son petit collège, là, à Paris 18e, je sais pas.
Non, moi je pense pas, vraiment je pense pas.
Ah oui.
Il n'avait pas de désir et de passion pour le jeu, pour le théâtre, la comédie, etc. Donc c'est vrai que je trouve ça toujours très intéressant justement de raconter comment un destin ou une vie peut se jouer sur un petit accident, sur un hasard, et qu'en fait la passion après nous transporte.
Vous dites, la prédestination n'existe pas, tout le monde peut choisir d'avoir une vie incroyable.
Bon, je sais pas, peut-être c'est un peu naïf de dire ça, mais moi j'ai l'impression que c'est le cas. En tout cas, je l'ai souvent observé, déjà à partir de mon propre cas, mais aussi quand je regarde Vincent, c'est assez drôle. C'est d'ailleurs quelque chose qui nous rapproche beaucoup. On en revient souvent pas tous les deux de là où, de ce qui nous arrive souvent. Et donc ça nous fait beaucoup rire dans le, il y a quelque chose de tragicomique dans la chose. Bon, il est évident que la prédestination n'existe pas. Les dons, etc., ça n'existe pas. Quand on aime quelque chose et qu'on est passionné, on peut toujours y arriver, je pense.
Même question, Antoine Debecq, par rapport à Truffaut et Léo, si Truffaut ne l'avait pas découvert. En même temps, il a créé un acteur spécial. C'est pas un Vincent Lacoste qui peut aller dans, mais c'est vrai, dans toutes les directions. C'est pas le même cas de figure.
Oui, alors c'est il y a un paradoxe, c'est-à-dire que je pense que Léo serait devenu acteur parce qu'il est,
il le voulait.
Il avait d'ailleurs déjà joué dans un
casting. Oui,
il le voulait. Il avait vraiment cette détermination là et il le serait devenu. Évidemment pas le même. Et après, ce qui est intéressant, c'est que autant Vincent Lacoste a une palette très large. Et ses rôles sont devenus, voilà, cette trentaine de rôles, c'est à la fois la révélation d'un grand acteur et voilà, des registres très différents. Autant c'est vrai que Jean-Pierre Léo est resté pendant toute sa vie, et ça a été je dirais aussi quelque chose de très difficile, hein, la créature de Truffaut. Il s'est jamais vraiment émancipé. La seule chose qui lui est arrivée, c'est la mort de Truffaut qui l'a précipité dans le grand monde. Alors il y a eu des rivalités, par exemple Godard et Truffaut se sont disputés Léo, un peu comme un couple se dispute la garde d'un enfant. Mais c'est vrai que Léo a fait d'autres films, mais il est quand même resté la créature de Truffaut, ce qui Antoine Doinel est à la fois pour lui une souffrance, pour reprendre un mot.
Riyad Sattouf, vous pourriez être jaloux d'autres cinéastes par rapport à Lacoste?
Ça a été un... Oui, tout à fait. Bah j'étais mortellement jaloux quand il a commencé à se mettre à faire des films, etc. Alors bon, évidemment, ça s'est un petit peu calmé, parce que j'ai beau être jaloux, c'est pas parce que je suis jaloux qu'il va arrêter d'être acteur, mais c'est vrai que pour moi c'était ma créature. J'aurais adoré qu'il fasse que mes films et qu'il n'en fasse pas d'autres. Ça me plaît beaucoup ce que vous dites sur Léo et Truffaut et Godard, parce que je me suis toujours dit, enfin je ne savais pas ça, cette histoire là je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que ça devait être énervant pour Truffaut de le voir jouer chez Godard, sachant ce qu'il y avait entre Truffaut et Godard.
Sa créature lui échappait, quoi.
Ouais, ça devait être insupportable.
Comment vous trouvez-vous la suite de sa carrière? Parce que moi, je trouve qu'il n'a pas fait beaucoup d'erreurs de choix de films, hein, Lacoste.
Non, mais alors quand je l'ai rencontré, il avait vu 4 fois Scarface. Oui. Et aujourd'hui, c'est devenu un maxi cinéphile. Il a vu des centaines de films. Il est capable de juger un scénario de façon très précise. Il aime vraiment ça. Il est vraiment passionné. Il connaît tous les réalisateurs. Il rêve de tourner avec certaines personnes. Il a accepté des premiers films un peu confidentiels qui ont eu beaucoup de, comment dire, qui ont eu beaucoup d'écho, etc. Oui. Il a vraiment un regard très particulier. Moi, je l'admire beaucoup.
Ouais. Merci beaucoup, Riyad Sattouf, le jeune acteur.
Merci.
1, c'est déjà fini.
Merci.
Aventure de Vincent Lacoste au cinéma. Les livres du futur, c'est une BD très drôle, émouvante. Vraiment, on va l'offrir à...
Et qu'on offre immédiatement à notre invité, Antoine Debecq. Voilà, vous allez rigoler autant que nous, j'espère.
Vous allez dédicacer virtuellement Riyad.
Merci beaucoup.
Merci, Riyad.
Merci, au revoir.
Merci.
Je ne pensais pas, quand j'étais enfant de 10-12 ans, je ne pensais pas devenir cinéaste. Et puis d'un seul coup, quand je suis rentré à Paris, j'ai vu un film qui était Le Testament du docteur Mabuse de Lang. Et la première bobine, le début, m'a mis dans un état tout à fait second. Je crois, il paraît que je me suis levé, ça je ne me souviens pas. Complètement abêti. Et je me suis dit, mais non, d'un chien, c'est ça qu'il faut que je fasse. J'ai trouvé ma vocation, mais ça a été assez long avant d'y arriver.
Chabrol, Claude Chabrol, quel plaisir de réentendre sa voix et de se replonger dans sa vie, surtout son œuvre, dans ce livre Somme, j'espère que le terme vous va. Chabrol, dont vous êtes l'auteur, Antoine Debecq, édité chez Stock. Dès l'introduction, cet avertissement, Claude Chabrol est un cinéaste à la fois célèbre et méconnu. Il a de lui-même façonné un portrait commode et léger, rond, bon vivant, gourmand, rieur et joyeux. Qu'est-ce qui se cachait derrière cette façade, Antoine Debecq?
Alors, on peut dire à la fois beaucoup de choses et pas grand chose.
Il y a un problème.
Bah, ça va bien régler nos affaires, ça. Ouais.
C'est-à-dire que, en fait, je pense que Chabrol ne cachait rien au sens où il n'y a pas de double vie, il n'y a pas de secret, de famille, il n'y a pas de scandale, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de vie secrète à préserver, à cacher.
Contrairement à Godard et Truffaut et Romer.
Voilà, Truffaut, oui. Romer, Godard
étaient des
masques, je dirais. Alors que Chabrol, il a créé ce masque, il a créé ce double, ce personnage. Je pense essentiellement sur un modèle hitchcockien. Il avait vu, hein, Chabrol est l'un de ceux qui les premiers en France et le plus a fait parler Hitchcock. Voilà, et il a compris tout de suite que Hitchcock avait créé un personnage qui l'arrangeait, qui était un personnage, voilà, qui racontait des drôles, qui racontait des histoires amusantes sur ses tournages, sur les actrices. Et Chabrol, dans son registre, c'est-à-dire plus gourmand, plus rond, plus ironique aussi, a créé ce personnage parce que ça lui permettait d'être tranquille par rapport à, notamment par rapport à la critique, par rapport à tous ceux qui venaient le voir pour lui faire parler par exemple de la profondeur de ses films, etc. Et donc ce personnage était utile. Et je crois que bon, là-dessus, il rejoint d'autres. Truffaut a créé ce personnage de gentil, cinéphile. Oui. Godard a créé le personnage du méchant. Oui. Donc ils ont tous, créé des personnages qui leur permettaient d'œuvrer un peu tranquillement, hein, par rapport à. Faut se rappeler aussi quel phénomène public a été la Nouvelle Vague à la fin des années 50, début des années 60. C'est-à-dire que tout d'un coup ils étaient précipités à la une des journaux, y compris la grande presse. Et donc voilà, il y avait cette volonté de se replier sur une forme de personnalité plus secrète, plus intime, qui lui permettait de travailler.
C'est marrant, il se moque de tout quand il dit « il n'y a pas de nouvelle vague, il n'y a que la mer ».
Oui.
Il n'y a que lui pour dire ça dans les manches.
En même temps, c'est très juste. C'est
pas une nouvelle vague, il y a le cinéma, quoi, en gros.
Voilà, il y a cette sorte de grande étendue, et puis on y circule comme on veut. Bien sûr, la nouvelle vague a donné une sorte de... Voilà, d'impulsion première, et puis après, ben, il faut voguer sur l'océan, et ils seront pas nombreux à la traverser, cette mer aussi. Il y a cette idée là aussi que c'est dangereux. Voilà, je pense que c'est le goût aussi de Chabrol pour un certain nombre de phrases, de dialogues qui il sera lui-même, même s'il était un peu réticent aux bons mots et tout ça, il sera un grand dialoguiste de ses films.
Les débuts ont été difficiles avec la menace de mort qui a plané au-dessus, vous le racontez très bien, au-dessus de son berceau, et qui lui a fourni cette énergie qu'il déploiera par la suite, écrivez-vous, parce que sa mère enceinte de 3 mois est empoisonnée au gaz. C'est un drôle de début, ça, dans la vie.
Ouais, c'est sûr que cette idée qu'on est un peu un survivant, qu'on est un rescapé, et que les médecins avaient dit tout simplement à sa mère qu'il fallait qu'il y avait des grandes chances pour qu'elle doive faire son deuil et avorter de cet enfant qui serait sans doute mal formé. Voilà.
Ça a imprimé quelque chose dans son œuvre.
Alors moi, je pense que c'est très profondément inscrit chez Chabrol, cette sorte de survie vitale comme ça, qui lui a donné la naissance. Et puis ensuite, je pense que cette idée de la fragilité de l'existence et d'abord des enfants, c'est quelque chose qui a été qui a frappé d'ailleurs Chabrol, qui a perdu son fils aîné tout petit. Ouais. Et donc c'est d'ailleurs une trace de traumatisante qu'on retrouve dans son œuvre. La mort du fils, c'est vraiment quelque chose qui, du premier film au dernier film, est présent.
Ça sera effectivement présent dans son premier film, en 59, Le Beau Serge, avec Gérard Blin et Jean-Claude Brialy. François retourne dans son village après des années d'absence. Il y retrouve son ami Serge qui, de son mariage avec Yvonne, a eu un enfant trisomique qui a sombré dans l'alcool. Extrait.
Mais pourquoi êtes-vous comme ça?
Tout le monde est comme ça.
C'est pas vrai. Vous êtes comme des animaux. On a l'impression que vous n'avez aucune raison de vivre, aucune.
On n'en a pas. Et où est-ce qu'on ira la chercher? Tous ceux qui travaillent gagnent à peine de quoi vivre. La terre, c'est du granit.
Travaille, oui.
Ils travaillent parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire.
Tiens, viens voir. Regarde ça. Ils ont presque tous plus de 5 km à faire pour rentrer chez eux.
Et bientôt, ils auront de la neige, jusqu'aux genoux peut-être. Et ils veulent encore apprendre à lire. Oui, on est des bêtes. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde s'en fout.
Antoine Debecq, des débuts très prometteurs pour Chabrol, avec le beau Serge, les cousins qui font énormément de spectateurs, et puis un échec avec À Double Tour. Mais il commence presque le premier, lui, de toute la bande.
Ah, il commence absolument le premier. Ouais. C'est-à-dire que Chabrol est le premier à être passé au long métrage, le tournage, donc très tôt, hein, puisque c'est en décembre 57 qu'il commence le tournage à Sardan, dans son petit village d'enfance. Ce film très personnel, et les films, une fois qu'il a tourné Les Cousins, vont sortir dans la foulée. Enfin, c'est quelque chose d'assez étonnant. En un mois et demi, entre février et mars 1959, il y a ces deux films qui sortent et qui précèdent de plus de 6 mois les autres sorties des films de la Nouvelle Vague, Les 400 coups, et de plus d'un an À Bout de Souffle. Donc c'est vrai que Chabrol est la première apparition publique de la Nouvelle Vague, et c'est une apparition qui est très très puissante, très forte.
600 pages, une carrière énorme. Comment structurer cette immense carrière? Il y a plusieurs points d'entrée. On peut le faire à travers ses producteurs, on peut le faire à travers son étude de la bourgeoisie, à travers ses héroïnes féminines. Vous choisissez quoi? Les trois.
Alors oui, j'ai pas vraiment choisi. D'abord, je me suis laissé entraîner par les films. Oui. C'est-à-dire qu'il y a 57 films, une œuvre proliférante. C'était à la fois, je dirais, un délice de se replonger, déjà de revoir, c'est comme ça que j'ai commencé en fait le livre, en revoyant dans l'ordre chronologique les 57 films, et voilà, pour constituer cette sorte de comédie humaine, un petit peu de Chabrol.
Il y en a un qui vous a étonné, que vous avez redécouvert, vous avez eu une grande surprise, ou plusieurs surprises, en revoyant ces films.
Alors moi, j'ai été confirmé dans l'idée que Les Bonnes Femmes est un de ses grands films, alors qu'il a été très mal reçu donc au début de sa carrière. Et puis après, j'ai découvert, il y a bien sûr chez Chabrol, c'est vrai qu'il faut le dire, des choses qui sont très inégales. Il y a des films qu'il a fait de pure commande, dans lesquels il s'est très peu investi.
Hein, on aurait du mal à aimer Les Magiciens.
Voilà, par exemple, il dit c'est des films que j'ai fait le petit doigt dans l'oreille. Voilà. Donc,
il fallait tourner. Pure du vide.
C'est très Chabrol, faire ses gammes, ne jamais arrêter.
Oui.
C'est la même chose.
C'est vrai
et
que Chabrol
désacraliser presque sa propre œuvre.
Oui.
C'est un métier, donc on fait le métier.
Voilà, on fait le métier. C'est ce qu'il aime le plus au monde, tourner. Il n'aime que ça, d'une certaine manière, il ne sait faire que ça, et donc il va accumuler les tournages, parfois 3 par an, d'autre part, il y a cette idée que c'est en tournant qu'on apprend, c'est les gammes, c'est l'entraînement, il use beaucoup de ces métaphores-là, sportives, musicales, et puis je pense que Chabrol s'amuse toujours sur un tournage, quel que soit le film, même un film qu'il sait précisément être un navet, un futur navet, il va s'amuser pour toujours essayer de trouver quelque chose qui puisse être un petit peu un exercice de style, de mise en scène. Mais bon, il y a à l'intérieur de ces films qui sont souvent un petit peu trop méprisés, je trouve, de vrais chefs-d'œuvre, comme par exemple Alice ou La Dernière Fugue, qui a en 78...
Avec Sylvia Christel,
un film qui est enserré dans un moment pas très heureux de Chabrol, et qui est son seul film, je dirais, fantastique, et qui est pour moi vraiment un de ses très très grands films.
Sur la bourgeoisie, donc, grand sujet par rapport à Chabrol, les rapports de haine et de fascination envers sa classe d'origine, dont il perçait les apparences et les travers.
Oui, Chabrol était un grand connaisseur de la bourgeoisie, puisqu'il était lui-même un bon bourgeois, ses parents pharmaciens. Il a toujours aimé le mode de vie bourgeois, il l'a reconnu, il le disait, il aimait ce confort, il aimait cette culture, il aimait ce mode de vie. Et en même temps, c'est aussi l'esprit de Chabrol, cette sorte d'esprit à la fois extrêmement ironique, voire sarcastique, et puis cette manière d'être très doué pour décrire les relations à l'intérieur d'une classe sociale, les petites choses qui humilient, qui au contraire vont déclencher une violence. Et donc c'est cela que Chabrol filme aussi, c'est-à-dire de l'intérieur, filmer la bourgeoisie de manière critique, jamais moralisatrice par ailleurs, c'est-à-dire que Chabrol n'est jamais quelqu'un qui donne des leçons de morale, ce serait pour lui quelque chose qui serait odieux de à qui que ce soit, hein, que ce soit un bourgeois ou un prolétaire, que ce soit un criminel ou un homme banal, on ne fait jamais la morale sur un film, et par ailleurs ça n'empêche pas d'avoir ce regard extrêmement caustique, je dirais comme un entomologiste, un petit peu qui décrypte tout. Chabrol disait, je vote communiste à Neuilly, hein, voilà, je vote communiste, c'était pour lui ce regard critique, et à Neuilly parce que voilà, il était un être des beaux quartiers jusqu'au bout des ongles.
Grand admirateur Chabrol aussi de Simenon, il adapte un livre qui n'a jamais existé, c'est Bel Ami. On va écouter un extrait de ce film précédé par Gérard Depardieu.
La façon dont il tournait, la façon dont il choisissait ses cadres, qu'il répétait la scène avant, avec son œilleton, c'est exactement ce qui me manquait pendant longtemps. Parce qu'il y a quand même une certaine joie. Il avait écrit son premier article, parce que c'est quelqu'un qui me dit ça, que ma joie demeure. Eh bien là, j'étais dans cette joie qui demeurait. Et bien, donc c'était quand même assez extraordinaire de pouvoir rencontrer quelqu'un où tous les matins on va faire le film, on se dit, on se pose aucune question, on y va et on est heureux.
Ça c'était un bordel chic pour les bourgeois, les édiles et même les curés.
Oh, les salauds. Bon, on est dur ou on est mou?
L'histoire ne le dit pas. Ils se sont tous reconvertis dans l'humanitaire.
Les visiteurs sont les mêmes, avec les motivations qui changent.
Tu crois que l'humanité a fait des progrès?
Devant cet exemple, ça se discute. Dis-moi, quand je serai mort, qu'est-ce que tu diras de moi?
Je pense que je serai mort avant toi. Tu viendras pisser sur ma tombe. Hein?
J'aime bien quand tu me parles comme ça.
J'aime bien quand tu fermes ta gueule.
Antoine de Beck, Chabrol n'est jamais entré, écrivez-vous, dans le panthéon culturel du cinéma français. Pas de César, pas de Palme, pas de Venise, rien.
Alors, ces actrices, hein,
oui, beaucoup, oui, oui. Voilà. Mais lui, en termes de rien.
Mais c'est vrai que lui, jamais. Je pense que c'était quelque chose qui, évidemment, a dû le blesser. Et en même temps, il était imperméable complètement à cette reconnaissance-là, à ces honneurs-là. Et il a vécu de façon très joyeuse, encore, absence de légitimité, en tout cas. C'est peut-être quelque chose, d'ailleurs, qui, à la fois, l'a desservi. Hein. C'est sûr que Chabrol n'est peut-être pas mis à la hauteur où il devrait être mis, aux côtés de Truffaut ou de Romer ou de Godard, pour prendre les gens qui ont commencé avec lui. Mais en même temps, je pense que c'est aussi quelque chose qui lui a servi, lui a permis de garder cette liberté absolue de choisir toujours ses sujets, y compris des choses qui pouvaient justement peut-être l'amuser à un moment, mais ne pas correspondre forcément à ce qui serait le chef-d'œuvre attendu. Voilà, il a échappé, je dirais, à la malédiction du chef-d'œuvre.
Dernier angle, après on devra arrêter. Entre les femmes, il y a la femme bourgeoise Audran, et puis il y a la femme plus féministe qui est incarnée par Rupert.
Alors, c'est une des grandes lignes directrices du cinéma de Chabrol, c'est la manière dont Chabrol va féminiser son cinéma. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment redécouvert en voyant les films de Chabrol. Et évidemment, ça commence avec Stéphane Audran, hein, qui les Hélènes, hein, toutes ces personnages d'Hélène, qui sont à la fois des bourgeoises, mais qui commencent à s'émanciper quand même à la fin des films avec Audran. Et puis, Huppert va prendre ce personnage féminin et le transformer en un personnage qui est hautement subversif et violent, souvent une violence cachée, secrète, qui est la femme criminelle. Là, c'est quelque chose qui est très important chez Chabrol, et je pense que ça détermine une grande partie de son cinéma, cette manière d'aller vers un cinéma beaucoup plus féminin, à tous les postes de travail d'ailleurs.
Tout cela et le reste est dans cet énorme livre, 600 pages, mais quel travail Antoine Debecq, Chabrol. Chez Stock, la biographie, on se retrouve...
Parfaite lecture de vacances, on a du temps, on peut lire une telle bio.
On se retrouve pour les sorties après Damon Albarn et encore un petit bout de Chabrol.
Une chose, alors que je n'aime pas dans le cinéma, c'est les gens qui sortent d'un film en disant « Ah ben, c'était pas tant, pendant 2 heures, j'ai oublié mes soucis ». Ça, je ne peux pas supporter. Parce qu'il ne s'agit pas d'oublier des soucis, il s'agit de résoudre les problèmes. Et même un film doit pouvoir vous aider. Ouais. Un film n'est pas une picouse de morphine ou une ligne de coke, c'est tout autre chose. Ça devrait au contraire vous aider à vous ouvrir l'esprit.
Damon Albarn, c'est trop beau. On va parler des sorties, Laurent.
Oui.
En commençant par Bad Luck Banging or Loony Porn, un drôle de titre d'un film signé du Roumain Radu Jud. Amy, une enseignante, voit sa carrière et sa réputation menacées après la diffusion sur Internet d'une sextape tournée avec son mari. Forcée de rencontrer les parents d'élèves qui exigent son renvoi, Amy refuse de céder à leur pression et questionne alors la place de l'obscénité dans nos sociétés. Il est interdit aux moins de 16 ans, ce film, avec avertissement.
Oui, c'est vrai. Alors d'abord, juste vous le remarquez, un drôle de titre et un titre en anglais.
Oui.
Je ne sais pas pourquoi. Je suis allé me renseigner. Il y a bien un titre roumain original que je vous livre. Babar, Déala, Cu, Bucluc, Sao Porno, Balamuc. Voilà, bon, c'est pas pire que si j'avais dit en anglais. Donc de toute façon, j'ose. Mais je ne comprends décidément pas pourquoi ce film n'a pas un titre français. Ça me semblerait plus accessible dans les salles plutôt que d'aller chercher cette difficulté de prononciation.
Bon, par rapport à Berlin où il était présenté, où il a d'ailleurs reçu l'Ours d'Or.
Vous faites bien de le lire. J'allais y venir. Alors c'est une sorte de Bucarest ou l'enfer moderne. Hein. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que avec une pornographie urbaine omniprésente qui claque comme une gifle sur la joue de l'héroïne. Moi je trouve qu'il y a du Sioran chez Radu Jud, c'est-à-dire qu'il est d'un caustique désespéré, lucide jusqu'à l'os. Hein. Tout est passé au tamis de son extra lucidité, avec évidemment des piqûres de rappel qui pour les Roumains ne sont pas éminemment sympathiques. Le passé nazi. nazi, le présent antisémite et le racisme endémique. Alors une fois qu'on a dit ça, il faut clairement dire que il est évident que le cinéaste ne pense pas qu'à Bucarest, c'est-à-dire ce qu'il décrit, c'est notre monde, c'est bien évident. Et ça, nous, ce que je viens de dire là, nous renvoie d'ailleurs à quelques réalités actuelles françaises sur lesquelles il conviendra de réfléchir dans les mois qui viennent. Et donc ce genre de film, ben, donne.
Je ne sais pas ce que vous voulez dire.
Ça, ben oui, bien sûr. Cherchez bien. Et ça nous donne des occasions de réfléchir. Et avec au fond de tout ça, comme souvent chez ces cinéastes roumains bigrement intéressants, il reste fondamentalement un amour du cinéma qui est incroyable, c'est-à-dire un plaisir là aussi de filmer même l'enfer qui est tout à fait sidérant.
Le nouveau film du cinéaste iranien Asghar Farhadi s'appelle Un héros. Rahim est en prison à cause d'une dette qu'il n'a pas pu rembourser lors d'une permission de 2 jours. Il tente de convaincre son créancier de retirer sa plainte contre le versement d'une partie de la somme. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Depuis une séparation, c'est à peu près le même dispositif. Un individu pris dans un engrenage dont on sait dès le début qu'il va se refermer sur lui, une mécanique implacable, un scénario au cordeau dont les branches vont rendre l'arbre très touffu, avec une variante cette fois, leur rôle, l'intervention et la menace des réseaux sociaux.
Voilà, je ne puis qu'approuver cette façon de résumer le film, parce que faut dire que la petite entreprise Farhadi tourne ronronne, quoi, un peu, hein. Faut dire ça comme ça. C'est-à-dire que, à part, alors si on accepte les enclaves européennes, alors qui sont carrément ratées, mais disons que la veine iranienne, elle est effectivement sur cette longueur d'onde-là, avec, vous le disiez, et de façon tout à fait passionnante, parce qu'on a parfois ici, hein, dans l'occidentalocentrisme, une vision qui serait « Oh non, mais les Iraniens, il n'y a pas Internet, on ne peut pas beaucoup, etc. » C'est pas vrai du tout. Non, c'est une société qui est tout aussi traversée par les réseaux sociaux que la nôtre. Et donc, de ce point de vue-là, le regard de Farhadi, il est bigrement intéressant et il est bigrement universel, faut le dire. Il dépasse largement l'Iran. Mais disons, puisqu'on peut comparer un petit peu les choses, nous avons en ce moment un film iranien sur les écrans, « Le diable n'existe pas », de Rasoulov, dont on peut estimer que, comme aurait dit Chabrol, ben, il est très nourrissant et il est une belle fenêtre ouverte sur le monde.
Il faut varier les plaisirs quand même, mais l'Iran est tellement fascinant, le cinéma iranien.
C'est sidérant, ce cinéma.
Ah oui,
absolument.
La Panthère des Neiges, un documentaire de Marie Amiguet et de Vincent Munier au cœur des hauts plateaux tibétains. Le photographe Munier donc entraîne l'écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la Panthère des Neiges. Il initie à l'art délicat de l'affût, à la lecture des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes en parcourant les sommets habités par des présences invisibles. Les deux hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté du monde. Un film, Laurent, sur l'attente, l'observation, le regard et cette constatation, mieux regarder le monde pour mieux le comprendre.
Oui, alors, il y a un peu un paradoxe, parce que si vous voulez, vous mettez un bavard, un pénitent et marcheur, qui est Sylvain Tesson, en position d'être à l'affût. C'est-à-dire, ça nécessite un silence absolu et un immobilisme total. C'est pas au marcheur Antoine Debecq que je vais apprendre ça. Oui. Alors, ça aurait pu être un immense film burlesque. C'est-à-dire, effectivement, vous mettez ce type-là dans ce contexte-là, il devrait pas arrêter de marcher et de parler. Bon, ben, alors, comme Sylvain Tesson est un gentil garçon, manifestement, il se plie à l'exercice, on lui dit de la boucler, il la boucle. Bon, et vraiment, ses interventions sont minimalistes. Alors, il a fait un bouquin qui a permis de parler ensuite. Mais le résultat, c'est quoi? Ben, il voit pas que, comme le disent certains, et notamment Werner Herzog, la nature, elle s'en fout, en fait. Voilà, je crois que c'est quand même
Mais ça, ils le disent, hein, que...
Non, parce qu'il y a quand même un peu d'anthropomorphisme, quoi. C'est-à-dire, cette panthère, elle finit par avoir un esprit, hein, elle finit par les voir. Alors, je pense qu'elle s'en fout complètement, la panthère de Sylvain Tesson et de tout ce qui se passe. Mais bon, il faut bien nourrir les choses, c'est comme ça. Et alors, ceci dit, évidemment, et le hors-champ n'existe pas, alors que le hors-champ, il existe vraiment dans ce genre d'expédition, parce qu'évidemment, quelqu'un les filme.
Oui, mais ça me manque de pas voir les gens qui les filment.
Et moi aussi, parce que là, franchement, c'est une expédition, mais donc on voit pas le reste de l'expédition, ça ne va pas, d'un point de vue quand même réel, enfin, vraisemblable, quoi, voilà. Alors, Reste la nature, vous le disiez, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est un livre d'images extraordinaire. D'ailleurs, il y a un livre chez Gallimard qui vient de paraître, reflet du film et le texte de Sylvain Tesson.
Cher Léa, le nouveau film de Jérôme Bonnel, c'est l'histoire de Jonas Grégory Montel, toujours amoureux de son ancienne petite amie Léa Anaïs de Moustier, qui décide pour la convaincre de revenir avec lui, de lui écrire une lettre, une longue lettre rédigée dans le bistrot d'en face, sous le regard donc du patron qui est incarné par Grégory Gadebois. Charme, légèreté, délicatesse, fluidité, Tous ces adjectifs ressemblent au cinéma de Jérôme Bonnel dans cette étude de la fragilité masculine avec au bout du chemin cette idée accepter la fin d'un amour.
Oui, oui, je partage votre sentiment. Alors, je suis allé voir parce que c'était des souvenirs un peu lointains de catéchisme. Qui est Jonas? Parce que quand on intitule son personnage Jonas, c'est pas comme s'il s'appelle Pierre, Paul ou Jacques, hein. Donc, il y a un petit message. Ben, Jonas, il a été puni par Dieu. Donc, il a filé dans le ventre de la baleine. C'était ça, sa punition. Puis après, il a été chargé de délivrer la bonne parole à Ninive. Ben, c'est un petit peu donc, il y a un parcours spirituel et d'apprentissage de ce personnage. C'est ça que nous montre Bonnel. Avec, effectivement, des scènes assez réjouissantes parce qu'il y a un casting comme Anis de Moustier par exemple qui est tout à fait en chanteresse en quelque sorte face à lui, et puis un promoteur véreux, enfin etc. Il a comme ça en face de lui des sortes d'épreuves, une sorte de progression. C'est une journée dans la vie de Jonas, et de ça, de ce point de vue là Jérôme Bonnel sait très très bien faire.
Je voudrais signaler quand même cette scène avec Léa Drucker. C'est un moment formidable, suspendu de grâce, absolument bouleversant. Bravo à Léa Drucker. On finit très vite, Laurent. Oulala, la pluie noire de Shoei Mamoura comme cadeau pour Antoine Debecq.
Ben oui, chez l'Arabia. Je sais pas si vous aviez vu ce film.
Ah, j'adore ce film.
Ah, ben tant mieux. Alors, il sort chez l'Arabia en Blu-ray avec un livret de 50 pages dessus. C'est un film d'une force, d'une vigueur, d'une âpreté sur Hiroshima. Incroyable.
Un grand film.
Merci. On rappelle votre livre sur Chabrol chez Stock qui s'appelle Chabrol. Voilà. Antoine Debecq.
Et les aventures d'Antoine Debecq chez Carlotta qui est donné à chaque spectateur qui ira voir les aventures d'Antoine Donnel au cinéma. Allez voir Antoine Donnel au cinéma.
Incroyable. Merci à notre belle équipe, Laurent Thomas, David Leprince, à la réalisation, Christophe Magère, préparation, Thierry Dupin, supervision musicale. Au revoir.